Je vous disais en introduction, avec notre Union européenne, on a à la fois voulu élargir et on a aussi voulu approfondir. Et là, il y a un véritable débat autour de élargissement, approfondissement, parce qu'au départ, la vision de ceux qui ont construit l'Europe, c'est de dire que si on avait un grand marché, on allait augmenter les débouchés, mais aussi qu'on allait créer une pression concurrentielle. S'il y a un grand marché, il faut résister aux autres concurrents et que ce système-là allait permettre la modernisation de l'économie. C'est ce qu'on appelle, nous, en économie, la logique smithienne d'Adam Smith. Le fait que, il y a une pression qui s'exerce quand il y a de la concurrence et que le marché est de plus en plus large. Mais est-ce que ça fonctionne encore aujourd'hui, cette logique d'élargissement? C'est une vraie question. Et des gens comme Philippe Aguillon, spécialiste des questions de croissance, nous dit, à partir du moment où on se rapproche de ce qu'on appelle la frontière technologique, c'est-à-dire qu'on est sur un modèle de production qui est quasiment celui qui est le meilleur au monde. Et le meilleur au monde sur la frontière technologique, c'est le modèle américain, les technologies qui sont développées par les entreprises américaines. Quand vous vous rapprochez de cette logique-là, la seule manière d'arriver à conquérir des parts de marché, c'est d'innover. Et là, pour l'innovation, la logique smithienne n'est peut-être pas la meilleure, c'est-à-dire la logique d'élargissement du marché tel qu'on l'a fait dans l'Union européenne. Le problème n'est peut-être pas de continuer à faire un marché de plus en plus large et de se dire « Oh, on n'est que 27, c'est dommage qu'on ne soit pas 30, c'est dommage qu'on ne soit pas 35 », parce que ça ne va pas nous rendre plus dynamiques. Et à ce moment-là, le problème est comment nous aussi, on peut faire de l'innovation. Et là, c'est un basculement. C'est-à-dire que tel que le marché commence s'est créé et s'est transformé en marché unique, c'est-à-dire ce qui s'est passé depuis les années 1950 jusqu'au début du 21e siècle, on a quand même eu largement des entreprises qui ont cherché à rattraper les technologies et l'efficacité des entreprises américaines. Et beaucoup d'entreprises européennes internationalisées aujourd'hui sont aussi efficaces que les entreprises américaines, mais il y a une chose qui reste problématique, c'est qu'on a tendance à être moins innovants. Et donc, il y a un déplacement sur d'une stratégie d'augmentation de la pression concurrentielle pour se moderniser, qui était celle des années 50, 60, quand on était loin de la frontière technologique, celle des États-Unis. Une fois qu'on l'a quasiment rattrapé, le problème devient plutôt d'essayer d'aller vers un système qui stimule l'innovation. Et alors là, le problème, c'est trop de concurrence peut très bien tuer l'innovation. Car qu'est-ce que cherche un innovateur? Il cherche une rente. Quand vous innovez, quand vous êtes le premier sur un marché, eh bien, vous avez une rente. C'est-à-dire que personne ne peut vous concurrencer et vous faites le prix. Et dans le prix, vous allez avoir une marge qui va correspondre au fait que vous avez un monopole d'innovateurs. Et si vous avez une pression concurrentielle très très forte sur un marché, vous n'arrivez pas à dégager cette rente d'innovateurs et donc vous n'êtes pas incité à innover. Et donc le problème, certainement aujourd'hui en Europe, c'est d'avoir des entreprises qui ont du mal à dégager cette rente d'innovation, du coup qui innovent pas assez, et comme elles n'innovent pas assez, eh bien on a un ralentissement de la croissance économique. Donc il y a un véritable débat aujourd'hui sur est-ce qu'on ne se serait pas trompé entre guillemets d'objectif, c'est-à-dire qu'on avait un objectif mais il fallait le relativiser, qui était celui de l'élargissement du marché, quand on était loin de la frontière technologique. Maintenant qu'on est pratiquement à la frontière technologique, notre vrai problème au niveau européen, c'est comment on arrive à créer des rentes d'innovation pour que nos entreprises créent de la croissance, mais par le biais de l'innovation, pas par le biais de l'élargissement du marché qui est très largement réalisé. Donc on est sur ce débat-là, sur la nature, entre guillemets, des avantages qui sont attendus. Reste qu'avec l'Union européenne, on pensait qu'on allait avoir quelque chose qui ressemblait à de la convergence, qu'on allait avoir une union de plus en plus homogène. Et donc je souhaite maintenant de développer un peu ce point-là, qui sont les débats sur les critères de convergence. Alors je pense que vous vous rappelez des critères de Maastricht qui étaient très centrés sur les questions de convergence nominale. Le fait qu'il fallait qu'on ait de la stabilité des prix, qu'on ait des finances publiques équilibrées, qu'il fallait qu'on ait une stabilité des taux de change pour qu'on puisse arriver à passer à une monnaie unique et des taux d'intérêt à long terme aussi qui convergent. Si vous regardez, c'est là des critères nominaux, c'est-à-dire que de 1992 jusqu'à la mise en place de l'euro, on devait essayer de satisfaire des critères qui sont des critères nominaux. C'est-à-dire que les taux d'inflation devaient converger entre les pays européens. Nos finances publiques devaient en effet se rapprocher d'une situation d'équilibre, c'est-à-dire le fameux 3%, pas dépasser 3% de déficit du PIB et avoir une dette publique qui soit inférieure à 60% du PIB. Et on devait stabiliser nos taux de change. Ça paraît banal, mais rappelez-vous la France des années 70. Vous n'aviez pas un carnet de change, on vous limitait sur les devises quand vous vouliez partir à l'étranger parce que nos problèmes de réserve en devises étaient insolubles parce qu'on avait une monnaie fondante. Donc cette stabilité des taux de change, maintenant ça nous paraît peut-être ancien, mais la France était un pays qui avait des problèmes récurrents de taux de change et des dévaluations à répétition. Et donc on avait une monnaie, entre autres par rapport évidemment au Deutsche Mark, qui était sans arrêt dévaluée. Et évidemment, si vous faites des taux d'inflation différents, les taux d'intérêt ne vont pas être les mêmes dans un pays très inflationniste et dans un pays, au contraire, qui a réussi à maîtriser son inflation. Donc, on s'est retrouvé sur ces critères nominaux et si on regarde, ça n'a pas si mal fonctionné. C'est-à-dire que je prends là les taux d'inflation moyens annuels sur la période 90-98 puis 99-2010. Et si vous regardez entre les écarts de taux d'inflation entre pays sur la période 1990-98 et sur la période 99-2010, vous voyez que ça se resserre. Même la Grèce, avec tous les problèmes qu'elle peut représenter, d'ailleurs c'est intéressant, était à une inflation annuelle de 11,8% sur la période 90-98, annuelle, hein, le taux d'inflation annuel. Il faut voir, c'est vraiment une monnaie fondante. Et il se retrouve à 3,25%. En apparence, les Grecs ont respecté de la convergence nominale. Ils ont fait de moins en moins d'inflation. Et si vous regardez, ça a l'air quand même très très raisonnable. Si on met un peu à part ceux qui sont entrés récemment, Estonie, Slovaquie, Slovénie, eh bien les pays tournent entre 1,5 et à peu près 3,25. C'est-à-dire que les marges d'inflation se sont particulièrement resserrées. Donc on pourrait se dire qu'on a réussi ici à créer cette fameuse convergence réelle, nominale, pardon, qui nous a permis de mettre en place cette monnaie unique. Mais en fait, derrière, il y avait une vraie question. C'est est-ce qu'avec cette convergence, on arrivera vraiment à avoir une zone monétaire qui fonctionne bien? Et donc, il y a eu un vrai débat sur les zones monétaires optimales. C'est-à-dire que dans les années 90, quand on, après le traité de Maastricht, on s'est vraiment engagé dans la procédure pour mettre en place l'euro, eh bien, certains ont dit « Oh, ça ne va pas suffire. Votre convergence nominale, le fait que vous arriviez à faire converger vos taux d'inflation, ça ne sera pas suffisant pour faire fonctionner une véritable zone monétaire avec une monnaie unique. » Et les plus critiques, d'ailleurs, étaient les Américains. Des gens comme Paul Krugman répétaient régulièrement à ce moment-là, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Et ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas une zone monétaire optimale. Alors, c'était un vrai débat. Parce que d'un côté, le fait d'avoir une monnaie unique, ça paraissait très bien pour tout le monde. On se disait, bah, ça va diminuer les coûts de transaction. Je veux dire, quand il y a des taux de change, pour les entreprises européennes qui faisaient des échanges entre elles, il y avait des frais liés au taux de change. Il y avait des risques, l'incertitude, puisqu'on était sur des changes flottants. Donc on avait l'impression qu'on allait diminuer les coûts de transaction, que ça allait être très intéressant. Passer à la monnaie unique, ça diminue les coûts de transaction. Et puis, vous avez quand même constaté aussi une chose, c'est que ça diminue les problèmes d'asymétrie d'information. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, quand vous partez à l'étranger aujourd'hui, de réfléchir longuement si le t-shirt que vous avez envie d'acheter est une bonne affaire ou pas, avec une conversion, une petite calculette dans la poche et tout. Le prix est en euros, et par rapport au prix chez vous, vous pouvez voir dans un autre pays si le prix est intéressant. Donc les coûts de transaction ont diminué, les risques ont diminué, et en plus la transparence du marché, qui est un élément extrêmement important, a priori s'est considérablement améliorée. Et je pense qu'il y a assez peu de touristes européens qui se plaignent d'avoir une seule monnaie pour se promener dans les pays, en tout cas de la zone euro. Donc c'est un véritable avantage. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il y avait un doute? C'est à partir du moment où on a une monnaie unique, il n'y a plus de solution en termes de dévaluation. Si vous avez des problèmes pour rééquilibrer votre commerce extérieur, si vous importez plus que vous exportez, vous n'êtes pas assez compétitif, dans un système avec monnaie nationale, il y a un moment ou un autre, on dévalue. Et je n'ai pas besoin de vous l'expliquer longuement, puisque la France a passé son temps à avoir des problèmes de balance commerciale et à dévaluer. Et évidemment, quand vous dévaluez, ça fait baisser vos prix à l'étranger, exprimés en monnaie étrangère, puisque votre monnaie nationale, elle, vaut moins en monnaie étrangère. Donc, vous retrouvez de la compétitivité à chaque fois. Si vous n'avez plus cet ajustement-là, eh bien, lorsque vous avez des difficultés, vous ne pouvez plus dévaluer et il va falloir trouver une solution. Et la solution, les Américains disaient, eh bien, si vous avez un pays qui a des difficultés et que les activités ferment les unes après les autres, il va falloir que vos travailleurs partent ailleurs. Donc, il faut que vous ayez un marché du travail avec une très forte mobilité des travailleurs. Si vous avez un pays en difficulté où on détruit des emplois, la seule solution, c'est qu'ils aillent travailler ailleurs. Et les Américains avaient en tête les États américains, en disant, nous, quand un État est en crise, les travailleurs partent et vont dans un autre État parce qu'ils savent que c'est là qu'ils vont avoir de l'emploi. Et donc, la théorie des zones monétaires optimales, c'est une théorie qui a été fondée par Robert Mundell en 1961. Elle nous dit qu'on peut avoir une monnaie unique que s'il y a une mobilité suffisante des facteurs de production à l'intérieur de la zone et une flexibilité du prix de ces facteurs. C'est-à-dire, si vous voulez rester dans une zone où il y a peu d'emplois, à ce moment-là, vous acceptez un salaire qui baisse. Et donc, si le salaire baisse suffisamment, ça devient intéressant d'embaucher un travailleur dans une zone qui avait tendance jusque-là à perdre de l'emploi. Et donc, on a eu à ce moment-là l'idée que pour que ça marche bien, une zone monétaire, fallait, un, qu'il y ait de la flexibilité et en même temps de la mobilité de facteurs de production. Alors pour le capital, on ne se faisait pas de soucis. Le capital, lui, il est très mobile, il est capable de partir d'un pays à l'autre. Mais le facteur travail, à partir du moment ne serait-ce où il y a l'obstacle linguistique et l'obstacle des systèmes de protection sociale qui ne sont pas harmonisés, on savait bien qu'à l'intérieur de l'Union européenne, on n'avait ni la mobilité, ni la flexibilité pour le facteur travail. À ça, il y avait d'autres critères qui sont venus s'ajouter. On disait que ça marcherait d'autant mieux qu'on aurait une forte diversification de la structure productive. Du style, si vous avez une crise dans un secteur, comme vous avez d'autres secteurs qui marchent bien, eh bien, vos activités vont pouvoir fonctionner. Et là, ils disaient, mais pauvres Européens, regardez, vous êtes plein de petits pays, vous, et vos petits pays ne sont pas du tout diversifiés. Les deux grands pays diversifiés, comme je vous le disais, c'est surtout l'Allemagne et la France. Mais plus vous allez vers les petits pays européens, plus au niveau de la structure, par exemple, de leur commerce extérieur, ils s'appuient que sur deux ou trois produits. Donc, si jamais ces produits-là se vendent mal, eh bien, ils n'ont absolument aucune solution de sortie, entre guillemets. Leurs travailleurs vont être au chômage, et comme ils ne sont pas capables de partir dans un autre pays, eh bien, ils vont rester avec du chômage, et ça va être insupportable. Et donc, on nous disait, vous n'avez pas ni la mobilité des facteurs, ni une diversification des structures productives suffisante. Donc, ça va être quelque chose qui sera extrêmement compliqué pour vous. Et alors, le résultat, si on regarde, c'est que finalement, on a eu une situation où, au niveau réel, on n'a pas eu la convergence qu'on attendait. Au niveau nominal, on a bien vu que sur l'inflation, ça s'est amélioré. Mais si vous regardez au niveau réel, ici, j'ai mis les PIB par habitant de 1995 à 2010. Et si vous regardez, vous voyez, alors, l'Irlande est extrêmement impressionnant en PIB. C'est vraiment le miracle économique des années 2000, parce que beaucoup d'activités vont s'y implanter. Le taux d'impôt sur les sociétés n'y est pas totalement étranger. Mais en même temps, comme ce sont des sociétés étrangères, une partie des revenus repartent dans le pays de l'entreprise d'origine. Le miracle est partiel, c'est-à-dire que ça a créé de l'activité en Irlande, mais les revenus, donc ici ce qu'on appelle le PIB par habitant, eh bien, ne revient pas totalement aux Irlandais. Hein. Donc le miracle doit être un tout petit peu corrigé. C'est extrêmement intéressant. L'Irlande est un pays fascinant sur ce qui s'est passé, mais fascinant aussi par les risques qu'il a pris. Puisque quand vous attirez les entreprises étrangères, les dividendes que les entreprises versent, elles ne les versent pas généralement à des résidents du pays, mais à des non-résidents qui sont les propriétaires de l'entreprise. Donc les revenus par habitant n'ont pas augmenté comme le PIB par habitant. Mais au total, si vous regardez en fait c'est les écarts entre les lignes au début et à la fin, ça ne s'est pas resserré du tout. En fait, on a toujours de l'hétérogénéité des PIB par habitant. Donc, on a eu de la convergence nominale, on a resserré nos taux d'inflation, mais par contre, en termes réels, je n'ai pas trouvé de convergence. Et ça va continuer. Si je prends la productivité du travail, l'idée, c'était qu'avec ce grand marché, tout le monde allait avoir une pression concurrentielle, et donc la productivité du travail par employé allait certainement converger, puisque un pays où la productivité serait plus faible, il n'arriverait pas à résister. Et bien, là encore, des années 90 jusqu'à 2010, si vous regardez les graphiques ici pour tous ces pays, je ne vois pas de resserrement entre les courbes. Les écarts de productivité sont restés. C'est assez incroyable. L'inertie dans cette zone euro fait que les écarts de PIB sont restés, les écarts de productivité du travail sont restés aussi. Et alors, le débat, ça a été sur le coût salarial unitaire. C'est-à-dire, les moins productifs, ils devraient avoir des salaires qui augmentent moins. Et donc, on devrait essayer, en fait, d'avoir des salaires nominaux qui viennent corriger les écarts de productivité. Alors, je vous donne deux graphiques, parce que là, c'est assez passionnant, et vous verrez comment, en construisant des graphiques, on peut avoir des visions différentes. Sous forme d'indice, je décide que le niveau des salaires dans tous les pays est le niveau 100 en 1998. Et je regarde comment ont évolué les salaires depuis. Et je vois que l'éventail s'est ouvert. C'est-à-dire que le coût salarial unitaire, ce que ça coûte en salaire pour faire une unité de produit, ça s'est écarté au fur et à mesure sur toute la période. Ça, c'est une courbe de Patrick Artus. Et donc, il dit, attendez, la zone ne peut pas continuer comme ça. Vous voyez bien qu'avec cet écart croissant des coûts salariaux unitaires, eh bien, il y a des pays qui deviennent totalement non compétitif, et comme par hasard, la ligne violette du bas, celle qui a les coûts salariaux unitaires les plus stables, qui reste au niveau le plus bas, c'est l'Allemagne. Et l'inquiétude qu'on a sur la France, d'ailleurs, est un petit peu relativisée, si vous regardez, c'est pas la pire évolution, mais par contre, la France a quelque chose de particulier, c'est que les autres ont quand même des phénomènes en dents de scie, ça monte, ça descend, dans la crise, ça redescend. Nous, alors, on traverse les périodes de croissance, de crise, avec un coût salarial, unitaire, qui glisse, qui glisse, qui glisse. Ça, par contre, c'est plus inquiétant. On a l'impression qu'on est insensible aux conjonctures économiques, et c'est un pays exceptionnel. Je pense que je ferai volontiers un jour une conférence sur la France. Il y a des données statistiques qui sont totalement hallucinantes, parce qu'en effet, ce n'est pas une économie de marché, en ce sens que les phénomènes de récession ou expansion, par exemple, on ne les voit pas. Le coût salarial unitaire est un truc qui serait un peu comme planifié à l'ancienne, qui glisse tous les ans à peu près indépendamment. Et évidemment, on s'écarte quand même au fur et à mesure de l'Allemagne. Mais si maintenant je prends les évolutions de coût unitaire du travail en niveau et plus en indice, donc j'ai ici les niveaux de coût unitaire du travail, eh bien vous voyez que ça donne plus l'impression que ça diverge. C'est-à-dire que si je les prends en niveau, il y a des écarts. Mais on pourrait même penser un peu que ça se rapproche. Et vous voyez que ceux qui réagissent, par exemple, plus brutalement à la crise, c'est les Irlandais. Alors, eux, ils sont vraiment dans une économie de marché. Tout à l'heure, on voyait comment leur PIB par habitant s'était envolé. Mais quand il y a la crise, là où le coût unitaire du travail baisse le plus, on le voit brutalement, c'est l'Irlande. Hein? Donc, c'est pas sûr que le coût unitaire du travail soit le problème majeur. Mais c'est quand même un des débats, et là-dessus, les économistes ne sont pas d'accord entre eux. Par contre, il y a un point sur lequel on est totalement d'accord, c'est qu'il y a un autre élément d'hétérogénéité, et encore une fois, on n'a pas de convergence réelle, c'est le taux de chômage. Ce n'est pas la peine que je détaille ce que vous voyez là. Les écarts de taux de chômage entre quelques-uns des pays européens sont aujourd'hui énormes. Et si je prenais les moins de 25 ans, c'est encore plus surprenant. Et si je prenais le chômage de longue durée, plus d'un an, les écarts entre pays sont énormes. Donc on a de l'hétérogénéité réelle entre les pays européens qui non seulement s'est maintenue, mais sur bien des plans s'est aggravée. Et ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut avoir une union qui fonctionne avec de la divergence réelle qui n'arrête pas de s'aggraver? Alors, il faut voir que la réponse de certains, c'est de dire, ah ben, on vous l'avait bien dit, vouloir s'élargir et vouloir mettre la Roumanie, la Slovénie, etc. dans l'Union, c'était insoluble. Là-dessus, les économistes sont absolument pas d'accord. Il y a ceux qui disent, il faut commencer avec des pays qui sont à peu près dans la même situation, donc des pays assez homogènes, parce que ça fait une zone monétaire optimale. Et il y a ceux qui répondent, non, non, vous vous trompez. C'est parce que vous les faites rentrer dans l'Union que vous accélérez les transformations du pays. Donc, il ne faut pas attendre qu'un pays pauvre devienne riche pour le faire rentrer. Faites rentrer un pays pauvre dans l'Union, et du coup, il va y avoir un choc de concurrence, des opportunités de marché. Il va accélérer sa croissance, il va aller plus vite que la croissance moyenne, et les pays pauvres vont rattraper certainement les pays riches. Et donc, on a eu ce débat, qui est en fait ce qu'on appelle, est-ce qu'il y a de la convergence exogène ou de la convergence endogène ? Si elle est endogène, ça veut dire que c'est parce que vous êtes rentré dans l'Union que, hop, tout de suite, vous vous rapprochez de la moyenne des pays. Vous avez vu que c'est pas quelque chose de tout à fait évident dans les graphiques que je viens de vous présenter. C'est un débat extrêmement important. Si vous avez envie, d'ailleurs, il y a un bouquin qui vient de sortir de Patrick Artus, Isabelle Gravet, « La crise de l'euro », qui débat énormément de ces questions de convergence, divergence. Je crois que c'est un vrai sujet. Mais on peut aller plus loin et se demander si la convergence nominale non seulement n'aurait pas échoué en faisant pas de convergence réelle, mais est-ce que la convergence nominale n'aurait pas été un facteur de divergence réelle? Alors là, ça devient fou. Et je vais vous raconter l'histoire très très simple de l'Irlande et de l'Espagne. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays-là? C'était des pays qui étaient un peu plus inflationnistes que nous. Parce qu'ils faisaient plus de croissance économique, comme la demande était plus dynamique dans ces pays-là, la croissance économique était au-dessus de la moyenne. Ils étaient souvent autour des 3%, voire un petit peu plus de 3% d'inflation. Mais comme on a une politique monétaire commune, le taux interbancaire est le même pour tout le monde. Ce qui veut dire que dans un pays inflationniste, quand vous empruntez, vous remboursez, mais vous remboursez dans un pays qui fait de l'inflation, où les prix augmentent, et les revenus augmentent aussi. Donc le taux d'intérêt réel que vous payez est inférieur. Si vous êtes espagnol ou irlandais, quand il y a de la croissance avec de l'inflation, le crédit vous coûte moins cher que si vous êtes allemand. Donc, si vous avez envie de spéculer dans ces pays-là, bien évidemment, c'est favorable. Et où est-ce qu'il y a eu des bulles spéculatives immobilières ? L'Espagne et l'Irlande sont deux pays caractéristiques. Et donc, c'est ce que je vous mets dans ce graphique-là. Vous avez là, en ordonnée, la croissance du crédit en moyenne annuelle, et vous avez le taux d'intérêt réel. Les taux d'intérêt réels sont faibles dans les pays très inflationnistes. Et qu'est-ce que je retrouve comme pays où on a eu une croissance du crédit absolument débridée? L'Espagne, la Grèce, l'Irlande et derrière le Portugal. Et qui est extrêmement raisonnable et n'a pas ce phénomène-là? L'Allemagne. Et donc, évidemment, il y a un argument maintenant nouveau qui est apparu. C'est est-ce que notre politique monétaire commune qui était fondée sur la convergence nominale, non seulement a échoué à faire de la convergence réelle, mais en plus, est-ce qu'elle n'a pas fabriqué de la divergence réelle, puisqu'en effet, la dynamique du crédit a été largement portée par les écarts de taux d'intérêt réel qui venaient du fait que les taux d'intérêt nominaux étaient les mêmes, mais que les taux d'inflation n'étaient pas les mêmes. Donc ça, c'est un véritable débat, parce que c'est une interrogation sur l'efficacité de la politique monétaire à l'intérieur de la zone euro, qui est exprimé avec ce graphique-là, qui est saisissant. Je vais aller très très vite pour finir, parce que je pense que tout le reste va être développé largement par les conférences suivantes. En fait, on est dans un système où on voit bien qu'il y avait des failles, ce que j'appelle les racines multiples de la crise. La première, c'est qu'on avait un pacte de stabilité et on ne l'a pas respecté, et on ne l'a tellement pas respecté que l'Allemagne et la France, en 2005, ont signé un accord pour ne pas le respecter. Un accord pour ne pas respecter un accord, c'est quand même extraordinaire. On a réussi à le signer. Dans certaines circonstances, on peut dépasser les 3% de déficit budgétaire et les 60% de dette publique. Donc, en fait, la crédibilité de l'accord s'effondrait à partir du moment où les deux pays, qui étaient les piliers du système, signaient un accord pour dire qu'on pouvait ne pas le respecter. Donc je ne développe pas ce point-là. Deuxièmement, on a vu qu'il y avait des faiblesses du secteur privé, c'est-à-dire qu'il y a des pays où on a eu des comportements spéculatifs qui se sont alimentés par le surendettement. On a eu des mauvaises allocations sectorielles du capital qui ont été fondées sur les plus-values à court terme, et je pense que le développement du secteur immobilier en Espagne est un excellent exemple de ce problème-là. On nous dit qu'on va créer des nouvelles procédures, ce qu'on appelle aujourd'hui le Macroeconomic Imbalance Procedure, qui est un système où on va créer ici des indicateurs qu'on va surveiller pour voir à partir de quand il y a des déséquilibres macroéconomiques dans un pays. Je crois qu'on a aussi découvert qu'à la racine de la crise, il y avait des manques ici d'instruments pour réaliser les ajustements structurels, c'est-à-dire que face à la spécialisation croissante des pays, on voit bien qu'on a une insuffisance de transfert entre les pays. Il y a des pays qui aujourd'hui ont des territoires qui sont très peu dynamiques. S'il n'y a pas de transfert, ces pays-là sont en grande difficulté. Et derrière, c'est la question du fédéralisme qui est posée. Sans augmenter la dose de fédéralisme, il y a des pays qui devront sortir de la zone euro puisqu'ils n'ont pas d'opportunité. On ne peut pas espérer que c'est seulement la baisse des salaires qui leur permettront à terme d'arriver à se maintenir dans la zone euro. Et la question, elle est très clairement posée pour la Grèce. C'est le fédéralisme, ça veut dire qui finance la protection sociale de la Grèce dans l'avenir. Si elle reste dans la zone euro, les Grecs n'arriveront pas à maintenir leur financement national de protection sociale. Pourquoi le débat n'est pas clairement posé? Puisque c'est autour de ces enjeux-là qu'il va falloir réagir. Donc, on est sur ces problèmes d'ajustement structurel et évidemment, on a découvert que les mécanismes de résolution des crises n'existaient pratiquement pas. C'est-à-dire que c'est là où on a vu soit les pompiers intervenir, ce qu'on appelle la Troïka, BCE, Commission, FMI, partir à trois pour proposer des plans d'urgence. Ou après, on a mis un fonds européen de solidarité financière qui a été transformé en mécanisme européen de stabilité. Puis maintenant, on avance sur l'union bancaire. Mais on voit qu'en fait, on les crée parce que la crise est là. Il n'y avait pas de mécanisme de gestion de crise parce que ce n'était pas prévu. Et ça, c'est quand même une particularité. On a fait une union qui ne pouvait pas être confrontée à une crise et qui n'avait pas d'institution pour gérer les crises. Donc je pense que là, on a quelque chose qui est important. Et bien évidemment, on a un problème. On n'arrête pas de nous parler de la crise bancaire européenne. Elle n'a pas les mêmes racines qu'aux États-Unis. La crise bancaire européenne, actuellement, c'est que les banques détiennent les dettes souveraines des États. Donc il y a une imbrication, il faut absolument trouver une solution à cela, il faut le gérer, c'est que la crise des dettes souveraines et les crises bancaires sont deux faces d'un même phénomène auquel il va falloir apporter des réponses. Donc il y a des voies de réforme. Est-ce qu'il faut créer des indicateurs d'alerte pour qu'on réagisse beaucoup plus vite, ce qu'on appelle renforcer ici les indicateurs de convergence? Les réformes structurelles, on n'arrête pas de nous parler du marché du travail, je pense que c'est un point extrêmement intéressant. Parce que les pays nordiques, par exemple, avec la flexsécurité, nous montrent un certain nombre de voies. Or, à chaque fois, on insiste beaucoup sur la flexibilité, mais ces pays-là ont aussi créé des mécanismes de sécurité. Et qu'il va falloir arriver à créer les deux. La flexibilité, elle seule, ne permettra pas d'arriver à ces réformes-là. Il y a l'amélioration de la gouvernance. On voit bien que les dialogues difficiles entre chefs de l'État actuellement ne sont pas très satisfaisants et qu'on n'a pas réussi à trouver des mécanismes un peu innovants de gouvernance. Si on ne renforce pas la solidarité, si on ne fait pas un peu plus de pluralisme, de fédéralisme, ça sera très compliqué. Pourquoi ? Ben, je vais vous mettre tout de suite. Je pense que voilà, c'est un graphique saisissant qui vient d'être produit. Sur, si je décompose les pays, vous voyez, à partir de la liste qui est en dessous, ouest, nord, sud, centre et est, voilà les évolutions ici par rapport au niveau 100. Le niveau 100, c'est le PIB par habitant des États-Unis. Qu'est-ce qui est en train de se dessiner si on ne trouve pas de solution? Vous le voyez clairement, là on a une anticipation jusqu'à 2018. Vous avez une Europe de l'ouest et du nord qui serait là autour de 80, et en fonction des incertitudes, on se rapprochera ou on restera peut-être un peu écarté du PIB par habitant des États-Unis. Et puis vous voyez le reste. Le Sud connaît une baisse dont on ne voit pas de correction claire du tout pour l'instant à l'horizon 2018. Si l'Est et le Centre se retrouvent aussi en difficulté, on voit bien éclater. C'est l'éclatement de l'Union européenne qui est derrière ça. Parce que ça, vous pouvez pas continuer avec cette polarisation de deux Europes, sauf à dire que Ouest et Nord engagent un mécanisme fédéral pour subventionner l'autre partie de l'Europe qui resterait grâce à un mécanisme de subvention. Il n'y aurait pas d'autre solution. Et donc, bah, je vais juste conclure en disant, oubliez surtout pas qu'une union monétaire, c'est un bien collectif. Ça nous appartient, en fait, parce que ça génère des externalités. Vos systèmes de retraite dépendent totalement du bon fonctionnement de ces économies, parce que les systèmes de retraite, derrière, vous avez aussi des fonds qui, quand il y a de la capitalisation, détiennent ce qu'on croyait être des produits très sûrs, des obligations d'État. Les fameuses dettes souveraines qui... Donc, très très vite, on a un système de domino. Et donc, ce que je mettais, c'est qu'il y a certainement aujourd'hui, pour arriver à maintenir ce bien collectif, un certain nombre de choses sur lesquelles il faut avancer, que je vous ai mis là, hein, qui sont ma conclusion, si on veut sauver ce bien collectif qui est l'union monétaire. J'ai été un peu long, peut-être. Désolé. Je m'étais dit que je voulais au moins une demi-heure. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur tout ça.
Oui.
Dans votre article précédent, la France est la queue en bois.
Ah oui.
De quoi?
Ouest.
Elle est à l'ouest. Vous l'avez la liste hein, en dessous. Je suis désolé, c'est tout petit. C'est le think tank Bruegel. Bruegel, qui est à Bruxelles, qui est un think tank qui fait des analyses sur quelles politiques économiques mettre en place en Europe pour sortir de la crise. Et là, ils viennent de publier un papier, donc qui est un papier en anglais, mais ils ont reconstitué, je trouve que c'est extrêmement intéressant, ces chemins-là, parce que quand on anticipe ces chemins, réellement, l'Europe du Sud... on ne peut pas rester dans le statu quo, c'est ça que je sais. S'il dévaluait, d'ailleurs, moi je ne suis pas sûr qu'il s'en sortirait. Parce que quand vous avez un pays qui a très très peu d'exportations, gagner en compétitivité, je ne sais pas, on va prendre toujours l'exemple, le tourisme et l'huile d'olive pour les Grecs, même en dévaluant, s'ils repassaient la drachme, ça ne fera pas rentrer assez de devises par rapport à l'augmentation du coût des importations pour ces pays-là. Surtout qu'en plus, ils devront de toute façon payer des dettes. Même si la dette souveraine, elle, est effacée, les particuliers ne vont pas voir leur dette effacée. Et eux, s'ils reviennent à la drachme, ils auront des dettes qui ont été libellées en euros. Et les banquiers ne leur font pas de cadeaux. Donc la baisse de pouvoir d'achat pour ces populations, c'est véritablement un problème de cohésion sociale là, qu'on est en train d'évoquer. Donc, on sait qu'ils ne peuvent pas dévaluer parce qu'ils sont dans l'euro et que s'ils dévaluaient, de toute façon, certainement qu'ils n'en sortiraient pas. Donc, il faut regarder maintenant de très très près parce que finalement, ce sont nos erreurs, là. Ce sont nos erreurs, c'est la manière de penser, de faire de l'intégration qui nous confronte aujourd'hui et il faut bien qu'on soit responsable. On a voulu créer cette zone euro et c'est très compliqué tout simplement parce que d'un côté, on a ces deux grands pays avec un qui s'effrite, qui s'appelle la France, qui est moins diversifié qu'il ne l'était au départ et qui doit... En fait, l'Allemagne, ça serait souhaitable pour l'Allemagne que la France reste diversifiée. Parce qu'autrement, ça va se compliquer d'être avec un noyau qui est un seul pays. Mais c'est les deux seuls grands pays qui sont dans cette structure diversifiée. La production industrielle du Royaume-Uni a baissé considérablement et c'est plus un pays diversifié. Donc, soit l'Italie et l'Espagne... L'Espagne améliore beaucoup ses performances à l'exportation en ce moment. Soit l'Italie et l'Espagne remontent un peu. Et ça nous arrangerait qu'on ait un noyau dur un peu plus large. Ça, je pense que ça renforcerait l'Union européenne. Mais après, il faut bien qu'on arrive à répondre. Le reste, ce sont des petits pays qui sont très monospécialisation, très fragiles. Donc, qui peuvent difficilement, quand vous êtes spécialisé, que sur un ou deux ou trois produits... Vous pouvez difficilement augmenter vos exportations, parce que ça dépend de la demande internationale. Vous êtes limité. Donc pour ces pays-là, à partir du moment où ils sont dans la zone euro, il va bien falloir qu'on trouve des mécanismes fédéraux, si on veut que ça soit supportable. Donc,
correction des taux de change entre le dollar et l'euro. Parce qu'à partir de 2002, normalement, le dollar a baissé par rapport, en moyenne, disons, par rapport...
Oui, quand on fait les comparaisons internationales, on les fait ce qu'on appelle à la parité des pouvoirs d'achat. Donc, on fait la différence entre les taux d'inflation des États-Unis et le taux d'inflation moyen sur l'Europe. Enfin, sur la zone euro. C'est la seule manière. C'est quand même derrière, même si on a ces écarts. Mais en fait, de toute façon, que ce soit les États-Unis ou l'Europe, on est dans des zones qui sont moins inflationnistes que l'inflation qu'on a connue dans les années 70-80. Ce qu'on a là, quand même, c'est plusieurs choses. Hein. C'est que ça fait quand même un certain temps que l'Europe ne se rapproche plus du PIB des États-Unis par habitant. Or, il ne faut pas oublier que ceux qui ont conçu le marché commun avaient ça en tête. Hein. Les missions de productivité avec Jean Monnet, quand vous regardez dans les années 50, c'est on prend les industriels par la main, on les met dans l'avion et on leur dit « Allez, vous allez regarder comment on travaille les entreprises américaines ». Ils reviennent en France et ils modernisent les méthodes de production. C'est-à-dire qu'on avait vraiment en tête, pendant les années 50-60, qu'il suffisait d'imiter les modèles de production américains pour qu'on arrive à les rattraper. Et là, on voit bien qu'il y a autre chose qui joue, puisque même pour la partie qui va mieux, ouest et nord, on voit que depuis les années 1980, on reste toujours au fait qu'on est sur un PIB par habitant qui est à peu près à 75-80% du PIB par habitant des États-Unis. Et je reviens à mon explication, quand je vous disais, il faut glisser d'un modèle smithien où on pensait que c'était par le grand marché et la concurrence, à un modèle par l'innovation. Et l'innovation, souvent, ça a des coûts fixes énormes, ce que je racontais, et que là, l'Union européenne serait certainement le bon niveau pour avoir ici une action plus forte en matière d'innovation. C'est-à-dire que si on veut moderniser des réseaux de communication européens ou des réseaux de production d'énergie, on pourrait certainement au niveau européen stimuler largement l'innovation, alors que c'est difficile au niveau national. Et petite chose d'ailleurs là-dessus, je crois que ce qui a changé dans le monde économique, c'est que les... deux leviers souvent les plus efficaces sont celui du territoire. On voit des innovations liées à des organisations qui sont innovantes à l'intérieur des territoires. Et on pourrait prendre la région Rhône-Alpes et voir comment des innovations sont portées sur le territoire. Et de l'autre côté, comment elles pourraient être aussi davantage relayées au niveau européen. Et donc ça, c'est souvent ce qu'on appelle le passage d'une logique verticale à une logique horizontale. La logique horizontale, ça veut dire que des territoires entre eux peuvent avoir des stratégies qui permettent de renforcer l'innovation. Et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, quand on regarde un peu la polarisation des emplois qualifiés, on peut se demander si on a, par exemple, entre certaines régions de l'Italie, de la France et de l'Allemagne, des réseaux qui peuvent se renforcer et qui peuvent créer des dynamiques innovantes sur les territoires. Et certainement que l'innovation passe à la fois par ces solutions au niveau des territoires, alors qu'avant, souvent, c'était au niveau national et ça retombait vers les territoires. Et deuxièmement, des grandes stratégies européennes, parce que là où il y a d'énormes coûts fixes, ce n'est pas les régions qui pourront financer des programmes très, très ambitieux d'innovation.
Que fait encore la Grande-Bretagne dans cette histoire d'Europe?
Vous aviez la phrase du début. Des fois que. Oui, si on remonte, c'est ce que disait Éric Le Boucher. Vous l'avez là. Vous avez un peu la réponse. Le Premier ministre de Grande-Bretagne a pris les devants. Il a annoncé cette semaine quitter l'Europe de la justice et de la sécurité. Les fameux deuxième, troisième piliers sur lesquels, là-dessus, il peut prendre des décisions. En même temps, quand même, un des pays qui tire énormément avantage de l'euro, c'est le Royaume-Uni. Donc, je crois que là, c'est un jeu, si vous voulez, qui est mené, parce que, bien évidemment, la place financière qui est intéressée à ce que l'euro continue et joue un rôle international, c'est Londres. Donc, c'est, je suis tout à fait d'accord que c'est un jeu complexe. J'aurais tendance, moi, à penser qu'en fait, ce que vous évoquez là, c'est que pour que la zone euro fonctionne bien, il lui faut un noyau dur. Et qu'on voit que le noyau dur France-Allemagne, c'est compliqué. Et donc, le noyau dur doit être élargi. C'est-à-dire que le noyau dur aurait des chances de fonctionner si on avait quelque chose qui est un peu recherché, j'ai l'impression, par la France actuellement, France-Allemagne, Italie-Espagne. Mais pour ça, il faut réellement que l'Italie et l'Espagne arrivent à être sur un sentier plus favorable. C'est-à-dire que si les deux pays décrochent, c'est pas possible. Certainement que là, on a quelque chose. Et si avec ces quatre pays-là, on arrive à avoir une dynamique qui est plus favorable, le Royaume-Uni aura une approche différente parce qu'il y a trop d'avantages pour ce pays-là. Mais assez logiquement, je pense que ce que fait le Royaume-Uni, c'est de vouloir les avantages sans les coûts. Mais ceci dit, c'est de notre faute. S'il n'y a pas plus de fédéralisme et s'il n'y a pas plus de gouvernance, c'est parce qu'on ne les a pas créés. Ce qui est un peu ennuyeux, c'est qu'il faille une crise. Ça paraîtrait quand même curieux qu'on découvre les pompiers que lorsqu'il y aurait eu les incendies. Un peu ça. Donc il faut aller un peu plus vite, mais je veux dire que quand on regarde, il y a réellement des solutions. Je pense qu'on avance aujourd'hui, mais ça va vraiment être la question du fédéralisme, parce que ça, je pense que c'est un problème démocratique. Si on doit réellement financer des systèmes de protection sociale qui sont au bord de la faillite dans les économies du Sud, c'est un problème des citoyens européens, de l'ensemble des citoyens européens. Parce que jusque-là, vous avez dit qu'il fallait sauver vos systèmes de retraite. Mais si je commence à vous dire qu'il faut sauver les systèmes de retraite des autres, c'est une autre question. Et pourtant, elle est en train de se poser.
Oui, ça y
est. Et alors, quelles sont les conséquences concrètement ?
C'est un appauvrissement extrêmement brutal des Grecs. Puisque eux, par contre, s'ils ont des créances à honorer, elles seront en euros. Donc, ça serait assez épouvantable. Il faudrait. Les dévaluations qui ont été imaginées dépassent les 20 à 25%. Ce qui veut dire que c'est. C'est un pays quand même qui, sur beaucoup de produits, est obligé d'importer. Donc le coût des importations augmenterait. Et beaucoup d'économistes, en fait, l'augmentation des importations dépasserait ce qu'ils arriveraient à exporter. Donc très très vite.
Leur réserve de devises s'épuiserait.
Je pense aux conséquences pour les autres, pour la France.
Alors après, c'est la théorie des dominos. C'est-à-dire, une fois qu'on aura fini d'attaquer la Grèce, quel est le suivant sur les marchés financiers, c'est un peu ça. Donc, je pense que c'est une autre raison de protéger la Grèce, enfin, qui est assez évidente. C'est qu'on, ce qui serait très très ennuyeux, c'est que réellement il y ait un effondrement de l'Espagne. Et donc, une des manières de permettre à l'Espagne de rétablir sa situation. Et je vous signale quand même qu'on oublie de dire que réellement les performances à l'exportation d'Espagne en ce moment s'améliorent. Hein, c'est-à-dire qu'il y a réellement les mesures qui sont prises, qui sont dures en termes de marché du travail. Ont des effets et qu'il vaut mieux qu'on trouve des solutions aussi à la Grèce pour éviter qu'il y ait d'autres pays qui soient en difficulté, parce qu'à ce moment-là, de toute façon, il faudra financer les difficultés, sauf à décider de faire complètement éclater ce que certains évoquent, qui me paraît évidemment un peu particulier, qu'en fait, l'euro soit une zone marque. Qu'en fait, ce soit quelques pays d'Europe du Nord rattachés à l'Allemagne, qui. Ça me semble des projets toujours très idéologiques. Par exemple, ceux qui pensent aussi qu'il devrait y avoir deux euros, un euro du Sud et un euro du Nord. On voit ce genre. Ça me paraît des choses quand même assez bizarres, parce qu'on a quand même créé beaucoup de mécanismes de solidarité. Mais, par exemple, ce qui paraît beaucoup plus inquiétant, ce sont les programmes. De circulation des étudiants en Europe qui risquent là de voir leur budget diminuer. J'ai vu ça aujourd'hui, extrêmement inquiétant, parce que ça, je pense que c'est un élément d'intégration extrêmement important. Si on parlait de la faible mobilité sur les marchés du travail, si on commence à remettre en cause les programmes européens de circulation des étudiants en les finançant plus, ça serait ça, à mon avis, ce qui serait la vision la plus court-termiste, c'est-à-dire de faire des économies là où il faut absolument qu'on arrive, au contraire, à améliorer notre convergence européenne. Je pense que des choses toutes simples aussi, comme diminuer le coût des brevets européens, Moi, je suis très tourné sur la question innovation. Donc, à la fois faire que les étudiants circulent davantage, mais faire aussi que le coût pour déposer des brevets européens diminue, que ce soit plus facile, qu'on ait des politiques là qui permettent de faciliter l'innovation. Ça serait quand même des éléments sur lesquels on peut agir. Mais sans gouvernance et sans fédéralisme...
En ce qui concerne les brevets, savez-vous qu'il y a à peu près 70% de brevets allemands, à peu près, je ne sais plus les brevets français, je crois que c'est de l'ordre de 15%. Les Anglais, ça doit être 20%.
Ouais.
Et les autres pays de l'Europe se partagent les quelques 3% restants.
C'est un excellent sujet. Les Allemands ont été en effet beaucoup plus dynamiques. Par exemple, les ententes aussi sur les normes entre les Allemands et les Chinois.
Je suis sûr
que leurs produits sont parfaitement compatibles.
Je suis sûr de mes sources.
Oui, oui.
Et vous avez l'Office des brevets pour la partie scientifique se trouve en Allemagne. Et juste en face du Deutsche Museum, avec la statue de Bismarck à la tête, qui est qui est sûrement le meilleur centre d'exposition de matériel.
Oui, si j'ai évoqué la question des brevets, c'est que... Et derrière les brevets, il y a aussi tout ce qui est les labels et les normes. On a un système national sur lequel on n'a pas assez réfléchi sur la stratégie pour avoir, par exemple, des normes et des labels qui soient immédiatement compatibles avec des normes chinoises. Les Allemands ont été beaucoup plus rapides là-dessus. C'est beaucoup plus simple ensuite pour un industriel allemand pour vendre des produits en Chine.
Les normes sont européennes.
Vous pouvez avoir des normes qui sont compatibles en même temps européennes et ils ont joué sur une politique de labellisation qui est différente de la nôtre. Et là, on est en train de toucher à tous ces petits morceaux qui facilitent l'innovation. Il y a plein d'éléments qu'il faut absolument mettre en place et qui dépassent la notion de grand marché. C'est comment faire que l'innovation soit moins coûteuse. Bon, je crois qu'il faut qu'on arrête parce que il est 4h30 et j'ai... un cours avec des étudiants juste derrière. Voilà, ben merci.